Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 5 décembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Tout d'abord les titres. Mondial 2022, tombeur du Sénégal 3-0. Les Anglais défieront la France en quart de finale après sa victoire sur la Pologne. L'Argentine et les Pays-Bas qualifiés samedi en éliminant respectivement l'Australie et la Team USA. La CEDEAO décide de créer une force régionale face au djihadisme et au coup d'État. Elle exige aussi que le Mali libère 46 soldats ivoiriens avant janvier. En RDC, marche catholique à travers le pays contre les rebelles du M23 qui campent sur leur position. Au Maroc, importante manifestation contre la vie chère et la répression politique selon les protestataires. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, met en garde Benjamin Netanyahu contre la création de nouvelles colonies en Cisjordanie. Dissolution en Iran de la police des mœurs dans un geste envers les manifestants. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakiza. L'Angleterre a déçu les espoirs des Sénégalais et de leurs nombreux fans en Afrique et ailleurs en battant 3-0 les Lions de la Teranga. Elle va maintenant affronter samedi en quart de finale le tenant du titre français, Eric.
Il s'agissait de la première opposition de l'histoire entre les deux nations de football. D'abord chahuté par le champion d'Afrique, le vice-champion d'Europe a laissé passer l'orage, puis sanctionné la naïveté défensive des Sénégalais. Les Lions de la Teranga n'ont pas pu réitérer leur exploit de 2002, lorsque le Sénégal avait atteint les quarts de finale du Mondial en Corée du Sud et au Japon. « Nous n'étions pas aussi bons que nous aurions dû l'être », admet Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. « Je suis en ligne avec Amédine Sy, notre consultant sportif. Amédine, qu'est-ce qui a manqué aux Lions pour dominer leur match ?»
Eric, il faut reconnaître que le Sénégal est tombé les armes à la main face à un adversaire supérieur. L'adversaire était d'un cran au-dessus des Lions du Sénégal qui ont été dominés dans tous les comportements du jeu, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan tactique, sur le plan de l'engagement, les Lions ont été carrément dominés face à une excellente équipe d'Angleterre qui a géré les émotions, qui a su tout gérer pour pouvoir remporter ce match. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'absence des cadres s'est fait sentir aujourd'hui. Parce qu'au début de la compétition, il n'y avait pas Sadio Mané, mais il y avait Sékou Kouyaté et Gana Gueye, les deux cadres qui complétaient Sadio Mané, qu'on appelait le trio magique. Mais après le match contre la Hollande, Kouyaté est blessé. Donc il ne restait que Gana Gueye.
Nous retrouverons Amédine Sy dans Sporama de ce soir. Et pourtant, tout avait bien commencé avant la rencontre. Les supporters sénégalais dansaient devant le stade Al Bayt. L'Angleterre, vice-championne d'Europe, chez elle en 2021 et demi-finaliste du Mondial 2018 en Russie, poursuit donc son chemin vers peut-être un second sacre mondial après celui de 1966 à domicile. Ce succès d'hier lui ouvre les portes des quarts de finale contre le tenant du titre français samedi dans le même stade, Al Bayt. Dans un match précédent, les Bleus ont écarté la Pologne 3-1. Le tenant du titre restait tenace, se réjouissent des supporters à la fin de la rencontre. Kylian Mbappé, la superstar de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, a pris seul les commandes du classement des buteurs de la Coupe du Monde à la faveur de son doublé face à la Pologne. En inscrivant deux des trois buts de la victoire des Bleus, le prodige bleu passe à 5 buts depuis le début de la compétition. Et Lionel Messi a enfin marqué en phase éliminatoire de Coupe du Monde et l'Argentine a battu l'Australie de 1 samedi à Doha, toujours lors d'un deuxième huitième de finale pour rejoindre les Pays-Bas qui ont fait céder trois fois le coffre-fort américain 3-1 pour décrocher leur billet pour les quarts de finale. L'affiche sera superbe vendredi dans l'écrin du stade de Lusail et l'Argentine se souviendra de son premier mondial gagné à domicile en 1978 en battant les Néerlandais en finale. Dans son coup de sifflet, Jules Valentin Gouet revient sur les deux semaines de compétition.
Bonjour. Le fait marquant de cette fin de deuxième semaine de Coupe du Monde pour l'Afrique aurait logiquement dû être ce premier huitième de finale que le Sénégal a disputé contre une équipe anglaise en pleine confiance, mais la fête a tourné court avec la large victoire de la formation britannique. Du coup, il a fallu chercher l'événement ailleurs, et quoi de mieux que cette victoire historique du Cameroun vendredi sur la légendaire formation du Brésil, la première d'un pays africain aux dépens du pays du roi Pelé en Coupe du Monde. Nul n'ignore la fascination exercée par la Seleção et ses légendes humaines, les Leonidas, Pelé, Garrincha, Zico, Socrates, Ronaldo ou Ronaldinho, sur des générations successives d'Africains. Voici que ce monument fabuleux est renversé ce vendredi 2 décembre par une courageuse équipe camerounaise sur un but tardif de son buteur maison Vincent Aboubakar, que la joie a rendu fou avec raison.
À suivre ce lundi, Drissa, le Japon qui croise la Croatie et les Brésiliens qui affrontent la Corée du Sud.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont décidé dimanche à Abuja la création d'une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le djihadisme, mais aussi en cas de coup d'État, comme la région en a connu plusieurs depuis 2 ans, a indiqué un haut responsable. Ils ont décidé de recalibrer notre architecture sécuritaire, a dit Omar Touré, président de la commission de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de prendre en main leur propre sécurité et non plus de s'en remettre à des acteurs extérieurs, a-t-il expliqué. Ils sont résolus à établir une force régionale qui interviendra en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres, a déclaré M. Touré. Des responsables militaires de la région se réuniront dans la deuxième moitié de janvier pour discuter des modalités d'établissement de la force régionale, a-t-il dit. Les dirigeants ouest-africains se sont aussi penchés sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, en examinant les actes accomplis par les uns et les autres sur la voie de ce qu'ils appellent un retour à l'ordre constitutionnel. Le sommet d'Abuja a aussi exigé de la junte au pouvoir au Mali qu'elle libère avant janvier les 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet sous peine de sanctions, Lionel Gahima.
Nous demandons aux autorités maliennes la libération au plus tard le 1er janvier 2023. Des soldats ivoiriens, a dit Omar Touré, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. M. Touré a également déclaré que la CEDEAO se réservait la possibilité d'agir si les soldats ne sont pas libérés avant le 1er janvier, suggérant ainsi la possibilité de nouvelles sanctions. Le président togolais Faure Gnassingbé, qui joue les bons offices entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans cette crise, se rendra au Mali pour porter ce message de la CEDEAO. Le Mali est dans un bras de fer avec la Côte d'Ivoire depuis qu'il a arrêté le 10 juillet 49 soldats ivoiriens à leur arrivée à Bamako. 3 femmes du groupe ont depuis été relâchées après la médiation de Lomé, mais 46 soldats ivoiriens sont toujours détenus au Mali.
D'autre part, le chef de la junte au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta, a abrogé le décret nommant un colonel, Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim, ouvrant la voie au retour de Choguel Kokala Maïga à la tête du gouvernement, ont annoncé les autorités dimanche soir. Choguel Kokala Maïga, un civil et vétéran de la politique, avait été victime en août d'un accident vasculaire cérébral. Au Nigeria, la police de l'État de Katsina a annoncé hier que 13 personnes sont retenues comme otages par des hommes armés qui, samedi, pendant la prière du soir, ont attaqué la mosquée du village de Maigamji dans le district de Funtua, dans le nord-ouest du pays. Les assaillants ont enlevé 19 fidèles après avoir tiré et blessé l'imam et un autre fidèle, selon la police, qui dit s'être lancé à la poursuite des bandits et avoir réussi à sauver 6 de ses fidèles, tandis que des efforts sont en cours pour libérer les 13 autres. Des marches ont été organisées dimanche par l'Église catholique aux quatre coins de la République démocratique du Congo pour protester contre les violences dans l'est du pays, où la rébellion du M23 campe sur ses positions 5 jours après un massacre de civils dont l'accuse Kinshasa. Accusation qu'a démenti encore ce week-end le M23. Non à la balkanisation de la RDC, non à l'hypocrisie de la communauté internationale, les mêmes slogans ont été scandés dans les multiples cortèges partis dimanche des paroisses congolaises à l'appel de l'Église catholique pour protester contre ce qu'ils ont appelé l'agression de leur pays. La marche prévue à Goma, chef-lieu du Nord Kivu et grande ville frontalière du Rwanda, avait toutefois été annulée pour éviter une éventuelle infiltration. Plusieurs milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Rabat contre ce qu'ils ont appelé la vie chère et la répression politique à l'appel d'organisations de gauche sur fond d'accélération de l'inflation et de montée de la grogne sociale. Michel Joseph.
Cette marche nationale, l'une des plus importantes des derniers mois, a rassemblé environ 3000 personnes dans le centre de la capitale Rabat, selon des journalistes présents en l'absence d'estimation officielle. Elle était organisée par le Front social marocain qui fédère des partis politiques et des organisations syndicales de gauche. Le peuple veut la baisse des prix, le peuple veut faire tomber le dépotisme et la corruption, scandaient les manifestants. Nous sommes venus protester contre un gouvernement qui incarne le mariage de l'argent et du pouvoir et qui soutient un capitalisme monopolitique, a déclaré le coordinateur national du Front social marocain, Younes Ferrachine. Le Maroc est revenu au niveau de pauvreté et de vulnérabilité de 2014 à cause de la pandémie de Covid-19 et de l'inflation, selon une note récente du Haut Commissariat au Plan.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a prévenu hier que les États-Unis s'opposeraient à l'établissement de nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée au moment où l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahu s'apprête à retrouver le pouvoir grâce à une coalition avec l'extrême droite, John Lyndon.
Nous continuerons également à nous opposer sans équivoque à toute action qui mette la solution à deux États en danger, notamment l'extension des colonies, des mesures en vue de l'annexion de la Cisjordanie, le fait de perturber le statu quo historique des lieux saints, les démolitions et les expulsions et l'incitation à la violence, a indiqué le secrétaire d'État lors d'une intervention auprès du groupe progressiste américain pro-Israël, G-Street. Le bloc de droite et ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite est arrivé majoritaire aux législatives israéliennes du 1er novembre avec 64 sièges sur 120, permettant à Benjamin Netanyahou d'entamer des négociations pour former un gouvernement. Plus de 475 000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, jugées contraires au droit international.
Pour endiguer la vague de contestation dans le pays depuis la mort de Mahsa Amini, l'Iran a annoncé dimanche l'abolition de la police des mœurs.
Cette annonce, considérée comme un geste envers les manifestants, est intervenue après la décision des autorités de réviser une loi de 1983 sur le port du voile obligatoire en Iran, imposée 4 ans après la révolution islamique de 1979. La même police des mœurs avait arrêté le 13 septembre Mahsa Amini, une kurde iranienne de 22 ans, à Téhéran, en l'accusant de ne pas respecter le code vestimentaire de la République islamique qui impose aux femmes le port du voile en public. Sa mort a été annoncée 3 jours plus tard. Selon des militants et sa famille, Mahsa Amini a succombé après avoir été battue, mais les autorités ont lié son décès à des problèmes de santé, ce que démentent ses parents. L'annonce de l'abolition de la police des mœurs a été accueillie avec beaucoup de scepticisme par des Iraniens sur les réseaux sociaux.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. République démocratique du Congo, des affrontements ont été signalés jeudi dernier dans le territoire de Rutshuru, dans l'est du pays. Des groupes d'autodéfense auraient lancé des offensives sur les positions rebelles, tandis que le M23 dénonçait ce qu'il a appelé une violation du cessez-le-feu par le gouvernement. Notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi, fait le point.
Toute la journée de jeudi 1er décembre, des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues dans les groupements Bambo autour des villages des Kishuché dans les territoires de Rutshuru. Dans un communiqué, le M23 parle d'une violation du cessez-le-feu par le gouvernement congolais, tandis que certains membres de la société civile évoquent des attaques des groupes d'autodéfense. Djamel Houssen est un acteur de la société civile.
Il n'y a aucun gouvernement, moins encore les Nations Unies, ni qui que ce soit, ne peut nous refuser le droit de se défendre face à un adversaire qui vient pour tuer nos femmes, qui vient pour tuer nos enfants, pour piller nos biens. Ce qu'est en train de faire le Rwanda sous couvert du M23. Il y a des rapports qui ont attesté cette vérité. Et le gouvernement congolais doit soutenir l'autodéfense.
Le lundi 28 novembre, le pourparlers de Nairobi ont commencé entre le gouvernement congolais et les groupes armés, à l'exception du M23 qui continue à exiger un dialogue direct avec Kinshasa avant de donner suite aux précédents accords dits de Nairobi. Ces accords semblent non seulement être ignorés, mais aussi ne pas faire le bonheur de la majorité des Congolais. Dati Salé est un analyste politique.
Je précise encore une fois à l'opinion que tout accord qui va à l'encontre du peuple congolais est caduque. Si c'était signé par un gouvernement ou bien par un monsieur, je ne sais qui, si ça ne respecte pas la volonté du peuple congolais, tout est caduque. Donc on ne nous parle pas des accords.
Selon Riki Paluku, un activiste des mouvements citoyens, le cessez-le-feu entré en vigueur le vendredi 25 novembre, dont le M23 parle, n'est qu'une distraction avec la complicité de la communauté est-africaine pour permettre aux rebelles de se réorganiser, de conquérir d'autres localités. Il demande aux forces de l'EAC, déjà présentes sur le terrain, de se battre aux côtés des FARDC ou partir.
Ces militaires kenyans qui sont déjà au Congo devraient se retrouver au front, sur la ligne de front. Mais aujourd'hui, nous les voyons toujours dans la ville de Goma, dans les hôtels. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer qu'ils sont en train de venir à Kinshasa pour distraire le président Félix Tshisekedi, afin que l'ennemi se réorganise. Et aujourd'hui, la preuve, elle est là. L'ennemi a avancé encore sur la ligne de front.
Différents groupes d'autodéfense se sont déjà coalisés dans les territoires de Rutshuru. Churu et des Massissi, le FARDC reste sur leur garde et le M23 continue de renforcer ses différentes positions. Entre-temps, le dialogue de Nairobi redémarre très bientôt, dans lequel le M23 n'a pas été convié car il est traité de mouvement terroriste avec lesquels Kinshasa refuse de discuter. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Gabon, les élections générales de 2023 sont déjà au cœur de l'agitation politique dans le pays. Le débat, la caducité du Centre gabonais des élections, dont le mandat est arrivé à terme depuis plus de 2 ans. Sur avis de la Cour constitutionnelle saisie par l'opposition, le CGE devait être renouvelé le mois dernier. À 9 mois de la convocation du collège électoral gabonais, c'est le dialogue de sourds entre pouvoir et opposition à Libreville. Sur place, les explications de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Selon la plateforme citoyenne Gabon d'abord, le mandat du Centre gabonais des élections a été prorogé 2 fois en violation de la loi. Une première fois plus de 2 mois après expiration du délai légal. Jacques Adjaeno, porte-parole de la plateforme Gabon d'abord.
Cet état de fait constitue, pour la plateforme citoyenne et patriotique Gabon d'abord, un cas de double violation grave des textes légaux.
Pour le Parti démocratique gabonais au pouvoir, il n'y a pas besoin de polémique. Le renouvellement du Centre gabonais des élections est une question de temps. Michel Ndongesso, membre de l'Union des jeunes du PDG.
Il n'y a pas de polémique. Il n'y en a que dans l'esprit de ceux qui veulent semer les troubles avant les élections. Nous sortons d'un contexte sanitaire compliqué qui a bloqué le fonctionnement des institutions dans toutes les dimensions. Le gouvernement, par la voix des institutions qui en ont la capacité juridique, va effectivement annoncer un calendrier, va dérouler un calendrier. Soyez rassurés.
Faute de consensus autour des règles de transparence, les analystes politiques redoutent des périodes pré- et post-électorales mouvementées. Arcel Moreau est politologue.
Dans le contexte actuel où, suite aux difficultés de santé rencontrées par le président de la République, suite aux difficultés que ressent le gouvernement par rapport à la situation post-Covid-19 qui a beaucoup affaibli l'économie, il sera difficile dans ce contexte-là d'accepter un verdict qui n'aurait pas été construit de façon saine, visible et incontestable.
Dans sa mission de prévention des conflits, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale se dit prêt à accompagner le Gabon. Abdou Abari, chef de mission de l'UNOCA à Libreville.
Nous allons intensifier les formations, y compris des formations d'encadrement au niveau de la famille, de partenaires comme vous, les journalistes gabonais, de façon à ce que vous soyez un médium pour transmettre un certain nombre de messages que nous allons arrêter d'accord parti de façon à ce que le climat de paix, la cohésion sociale, la paix et la stabilité au Gabon soient préservés, même au cours d'un contexte électoral.
Élu en 2018 pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois, le centre des élections au centre de la dispute est toujours en poste, alors que selon les sources officielles, le gouvernement prépare le lancement de l'opération de révision des listes électorales. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est mis en cause depuis mercredi dans un rapport parlementaire affirmant qu'il a pu commettre des infractions à la loi dans une affaire de cambriolage dans l'une de ses propriétés appelée Falapala où d'importantes sommes d'argent en liquide ont été trouvées. Alors que les spéculations sur sa démission étaient nombreuses ces derniers jours, son parti, l'ANC, semble en avoir décidé autrement. Les précisions de notre correspondante sur place, Patricia Huon.
Les cadres de l'ANC se sont brièvement réunis vendredi. Ils devaient discuter de l'affaire Palapala et du sort de Cyril Ramaphosa. Mais l'assemblée a finalement été reportée à ce lundi matin. Le chef de l'État et son parti gagnent du temps officiellement afin de leur permettre de mieux étudier ce rapport. Sans doute aussi les portes de sortie. Pour le politologue sud-africain Ibrahim Fakir, la majorité de la direction du parti, bien que divisée, a décidé de confirmer son soutien au chef de l'État.
L'argument est que s'il s'en va, cela va compromettre la stabilité du pays et les réformes qui ont été mises en place au sein des institutions publiques. Ce sont les éléments qui lui ont été présentés. Par ailleurs, le processus est loin d'être terminé et il ne semble pas qu'une inculpation puisse avoir lieu de manière imminente.
Après avoir initialement suggéré que Cyril Ramaphosa était prêt à démissionner, ce week-end, son porte-parole a annoncé qu'il avait l'intention de contester un rapport jugé défectueux. De son côté, l'analyste politique Suzanne Boysen estime qu'il s'agit d'un moment sombre pour la démocratie.
Je pense que c'est un moment dévastateur dans l'histoire de la démocratie sud-africaine. Il n'y a donc pas de candidat propre sans corruption ou malversation ou malhonnêteté. Il n'y a pas d'alternative. Et une autre mauvaise chose, les partis politiques d'opposition sont désorganisés et souvent peu crédibles en Afrique du Sud. Cela sape l'idée d'une démocratie multipartite.
Le scandale intervient à un moment critique pour l'ANC. Du 16 au 20 décembre, le parti au pouvoir doit désigner son prochain leader. Sauf rebondissement, Cyril Ramaphosa devrait rester le favori dans cette élection interne. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Dans sa veste, tous les belles filles, je lâche pas la patate.
Le président français Emmanuel Macron a terminé ce week-end une visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Il a fait une escale à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, une ancienne colonie française vendue aux États-Unis. Idriss Fall a recueilli la réaction de Matt Mick du CODEFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane.
Une visite présidentielle, c'est une grande occasion en Louisiane. Ça fait à peu près ou presque 50 ans depuis la dernière fois que le chef de la France est venu en Louisiane. Alors, c'est une belle occasion à apprécier l'histoire entre la Louisiane et la France. Et aussi une belle occasion pour constater la présence du fait français en Louisiane et le fait que le français se parle en Louisiane après 300 ans de contact avec la France.
Mais quel est l'intérêt de la France pour la Louisiane et historiquement, quelles sont les relations entre la Louisiane et la France?
Bien sûr que la Louisiane a été une colonie française il y a longtemps, mais la Louisiane et la France sont en contact depuis cette période-là régulièrement. On a beaucoup de liens historiques et également culturels. On travaille à maintenir ce contact avec la France et aussi avec le reste du monde francophone. Donc c'est un moment pour étudier quoi c'est l'avenir de nos contacts avec la France.
Et maintenant, comment est-ce que la Louisiane en fait est devenue américaine? Il semble que les Américains ont acheté la Louisiane à la France.
C'est ça. Et en fait, en Louisiane, on dit en anglais le Louisiana Purchase. Mais si on parle de cet épisode d'histoire en français, ce qu'on dit en Louisiane, c'est la vente de la Louisiane. C'est que la Louisiane a été vendue par la France aux États-Unis. Mais à ce moment-là, la Louisiane est devenue officiellement une partie des États-Unis. Mais la Louisiane maintient depuis son caractère un peu à part du reste des États-Unis. Et la langue française, bien sûr, ça fait une grande partie de personnalité de la Louisiane.
Et jusqu'à présent, les gens parlent français en Louisiane plusieurs siècles après?
Tout à fait, tout à fait. Le français est bel et bien vivant en Louisiane. Des fois, il y a cette idée que le français est mort en Louisiane, que ça ne se parle plus. La vérité, c'est qu'il reste une forte présence francophone, malgré le fait que le français a bien perdu un peu sa présence dans la population louisianaise, mais il reste bien pas mal de francophones en Louisiane.
Et votre association CODEFIL, elle fait quoi alors?
Le CODEFIL, c'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. On est une agence étatique qui travaille à développer et à promouvoir et à maintenir la langue française en Louisiane.
Matt Mick du CODEFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sevilla, à la mise en onde de Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.